Quand j'avais 2 ans et demi, mon père m'a acheté un piano. Un rêve de gosse. Son rêve de gosse. Il venait d'un milieu modeste et ses parents n'avaient pu lui offrir qu'un accordéon. Le piano du pauvre. Il a eu beaucoup de mal à trouver une professeure qui accepterait de prendre une élève aussi jeune. Je me rappelle que c'était une femme douce, chaleureuse et qui me donnait des bonbons quand j'avais bien travaillé. À cette époque, ma sœur venait de naître prématurément et ma mère s'en occupait beaucoup. Mon père est donc naturellement devenu mon répétiteur. À l'âge de 3 ans, je faisais déjà 30 minutes de piano par jour, puis très vite 1 heure, puis 2, puis 3. Et notre famille s'est progressivement scindée en 2. Ma mère et ma sœur, ensemble, dans le salon. Mon père et moi, ensemble, dans la salle de jeu. À l'âge de 4 ans, mon père a été muté en Allemagne et nous avons déménagé. Il a fallu trouver une nouvelle professeure. C'était une dame assez âgée, plutôt acariâtre, et qui a été ébahie par tant de dextérité chez une élève aussi jeune. Elle a dit à mon père, « Monsieur, votre fille a un talent qu'il ne faut pas gâcher. » Elle était de la vieille école et menait ses élèves à la dure. Et je pense qu'elle n'est pas étrangère dans son discours à l'obsession qu'a ensuite développée mon père pour cet instrument, et au travers lui, une véritable obsession de la perfection. Je n'avais pas encore 5 ans, je me rappelle, c'était un samedi, et on répétait une étude de Pozzoli depuis déjà 3 ou 4 heures. J'étais fatiguée, j'avais du mal à me concentrer. Mon père, lui, pensait que j'y mettais de la mauvaise volonté. Alors il m'a dit, à partir de maintenant, je prends une feuille et je note. Si tu fais 3 fautes sans t'arrêter, tu auras 3 coups de ceinture. J'ai paniqué, j'étais complètement déboussolée, bien sûr j'avais du mal à me concentrer, et j'ai recommencé à jouer. Et puis j'ai entendu le bruit du crayon sur la feuille. Je venais de faire une faute, je m'en étais pas aperçue. La deuxième et la troisième sont arrivées très vite. J'étais complètement paniquée. Il s'est levé en silence, il a dégrafé sa ceinture. Il m'a dit de venir vers le bureau, de poser mes mains dessus, de baisser mon pantalon et de me pencher en avant. Et j'ai reçu mes premiers coups de ceinture. En silence, il s'est rassis, j'ai ravalé mes larmes et on a recommencé à jouer. Ce n'était que 3 coups de ceinture, mais ils ont bouleversé ma vie. À partir de ce moment-là, on est rentré dans une routine impitoyable. Pour chaque faute, de notes, de nuances, de doigté où je ne m'arrêtais pas de moi-même pour me corriger, la sentence tombait. Se lever, aller vers le bureau, se pencher en avant, baisser son pantalon et recevoir les coups. Mon père voulait que je joue à la perfection. Pour lui, chaque erreur était un affront, un manque de volonté de ma part. Je t'aurai, t'en crèveras, mais je t'aurai. Si je dois résumer mon enfance à un seul sentiment, c'est assurément celui de la terreur, une peur panique de mourir seule. À l'âge de 6 ans, nous sommes rentrés en France, car mon père venait de prendre le poste de directeur général d'une grande usine en Auvergne. Avec mon nouveau professeur de piano sont arrivés les premiers concours, nationaux et internationaux, créant chez mon père une énorme pression, et sa violence s'en est trouvée décuplée. Il était complètement focalisé sur ma réussite. Pour préparer les concours, je devais travailler entre midi, dès la sortie de l'école, le soir, jusque tard dans la nuit, le week-end, sans répit. Souvent pas le droit de manger, pas le droit d'aller aux toilettes, t'as qu'à chier par terre. À l'approche des concours, il prenait des congés pour travailler avec moi. Je ratais beaucoup l'école, les cours qu'il jugeait inutiles, souvent le sport. Pour lui, peu importait la méthode, seul comptait le résultat. Avec les concours internationaux sont arrivées d'autres punitions. Il me coupait les cheveux quand j'avais mal travaillé, à ras. Il m'enfermait dans la cave, il détruisait mes vêtements, les livres auxquels je tenais. La maltraitance au nom de l'excellence. À l'école, j'étais la fille du directeur, rien de plus, cataloguée petite bourgeoise. J'avais essayé de semer des petits cailloux, d'envoyer des signaux, mais mes absences répétées n'étaient vues par les professeurs que comme l'octroi d'un privilège. Un jour, mon professeur de gym m'a pris entre 4 yeux et m'a dit « Dis donc, tu penses que parce que t'es la fille du directeur, tu peux te permettre de pas venir à mes cours ?» Pour les gens, la maltraitance n'arrive pas dans ce genre de milieu. Ma petite sœur m'aidait comme elle pouvait. Quand j'avais pas le droit de manger, elle cachait sous son pull un peu de nourriture qu'elle allait ensuite cacher dans mon armoire à vêtements pour que j'aie de quoi grignoter quand j'avais le droit d'aller me coucher. Ma mère aussi essayait de me protéger, mais elle était persuadée qu'en partant, elle perdrait notre garde. Lorsque je suis arrivée en seconde, dans un lycée de la région parisienne, tout a changé. Le jour de la rentrée, la prof principale nous a demandé de remplir la petite fiche usuelle de présentation. On devait écrire au recto, la profession des parents, notre date de naissance. Et au verso, elle nous a dit « Écrivez ce que vous voulez ». J'étais très épuisée à l'époque, physiquement et psychologiquement. Je ne pesais plus que 37 kilos. Alors j'ai écrit « Je fais 45 heures de piano par semaine ». rien de plus. Et le lendemain, l'infirmière scolaire, Madame Marion, m'a attendue à la récréation devant la porte de la classe. Elle voulait discuter avec moi. Je n'ai rien dit. Et tous les jours, elle m'a attendue devant la porte de la classe à la récréation pendant des semaines. Et progressivement, elle a gagné ma confiance. J'ai commencé à lui confier ce que je vivais à la maison. Et tout a changé en moi. Je ne me sentais plus seule, je n'avais plus peur de mourir. À l'approche de Noël, mon père est devenu de plus en plus violent. Le stress était à son maximum parce que je devais répéter des morceaux très difficiles, comme Feu Follet de Liszt ou Scarbo de Ravel, pour préparer un enregistrement qui aurait lieu en direct sur France Musique dans ce studio, probablement sur ce piano d'ailleurs. Je me rappelle qu'à la fin de ma prestation, une chanteuse célèbre qui était invitée avec moi a dit « Mais elle est toute menue, c'est impressionnant qu'elle arrive à jouer avec une telle puissance ». Quand le week-end de Pâques est arrivé, l'idée naissante que j'allais préparer le concours Chopin est arrivée avec lui, et mon père m'a menacé de me déscolariser, de m'inscrire au CNED. J'ai compris à ce moment-là que je pouvais vraiment mourir, et je me suis enfuie le lundi pour aller appeler l'infirmière scolaire depuis une cabine téléphonique. À partir de ce moment-là, je lui ai dit que j'étais prête pour faire un signalement à la justice. J'ai été placée et mon calvaire a pris fin. Mon père, lui, a été jugé et reconnu coupable. Prison avec sursis et injonction de soins. Pendant toutes ces années, pour ne pas sombrer, je me suis accrochée à mon rêve à moi, celui de faire des études de médecine. Une volonté farouche, coûte que coûte. Alors aujourd'hui, je ne suis peut-être pas devenue une star internationale, mais c'est avec fierté et avec beaucoup de bonheur que je suis médecin-chercheur.